30 piles. J'étais tellement content de vous rendre à la seconde près, Thomas Cluzel, que je me suis trompé sur l'heure. C'est les informations avec vous.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. C'est avec une grande émotion que je quitte ce ministère, déclaration ce matin d'Agnès Buzyn lors de sa passation avec Olivier Véran au ministère de la Santé. C'est à elle que revient désormais la délicate mission de porter les couleurs de la République en marche à Paris en remplacement de Benjamin Griveaux. Un départ du gouvernement accueilli toutefois avec colère et inquiétude dans les rangs du personnel hospitalier qui redoute de nouveaux délais dans les négociations.
À réforme d'ampleur, débat inédit à l'Assemblée nationale.
Oui, les députés entament aujourd'hui la deuxième phase de discussion parlementaire sur la réforme des retraites. Au menu 65 articles, 29 ordonnances et pas moins de 41 000 amendements. Et puis invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Christiane Ferralschul, avocate et présidente du Conseil national des barreaux, avec elle nous tenterons de comprendre cette grève historique chez les robes noires. Voilà 6 semaines maintenant que les avocats protestent contre la réforme des retraites.
À l'étranger, direction tout d'abord la Chine.
Oui, là-bas, le dernier bilan des victimes du coronavirus s'établit désormais à 1770 morts, selon des chiffres officiels qui confirment ainsi une décrue de l'épidémie de pneumonie virale. Enfin, nous tâcherons de comprendre les raisons d'un massacre qui a fait 22 morts, 22 civils au Cameroun. C'était vendredi dernier dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone du pays. Et puis à 12h55, Raphaël, ce sera la grande table des idées.
Avec un invité de marque, le philosophe Étienne Balibar, qui publie les premiers volumes d'un projet éditorial d'ampleur qui va rassembler tous ses écrits.
Merci et à tout à l'heure. La scène a beau avoir été jouée et même rejouée, elle n'en reste pas moins un épisode de plus donc de l'impressionnant feuilleton des désertions au sein du gouvernement ce matin. En remettant sa blouse de ministre de la Santé à Olivier Véran, Agnès Buzyn sera devenue tout à la fois la nouvelle candidate officielle de La République En Marche pour les municipales dans la capitale, mais aussi la 13e ministre démissionnaire et la 17e à quitter le gouvernement. Une concentration de départ inédite à mi-mandat par rapport aux trois prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Et parce que ce remaniement intervient qui plus est en pleine lutte contre l'épidémie de coronavirus, 2 jours après le décès en France de la première victime hors d'Asie, mais aussi en pleine crise de l'hôpital public, sans oublier le début de l'examen aujourd'hui à l'Assemblée de la réforme des retraites, eh bien cette passation revêtait pour le moins un caractère très particulier. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors, chose assez rare pour un candidat à des élections, l'Élysée a salué la décision courageuse d'Agnès Buzyn, sa volonté de mener le combat électoral à Paris. L'honore a-t-on fait savoir, ce qui laisse à penser tout d'abord que le choix d'Agnès Buzyn a été à minima validé par Emmanuel Macron, et ce qui pose ensuite 2 questions, celle d'une part du manque de réserve de figure nationale suffisamment forte pour porter les couleurs de la République en marche, et puis celle d'autre part de l'importance accordée par l'exécutif à la conquête de Paris. Nous allons y revenir, mais peut-être Pierre, un mot tout d'abord sur cette passation donc de pouvoir ce matin chargée en émotions.
Oui, rarement passation de pouvoir n'aura été aussi chargée en émotions. La voix brisée, Agnès Buzyn n'a pu retenir ses larmes tout au long de son discours, expliquant avoir vécu l'une de ses plus belles aventures humaines au ministère des Solidarités et de la Santé. Agnès Buzyn qui a dressé le bilan de son action en mettant en avant quelques-uns de ses combats comme la loi bioéthique, la réforme du 100% santé sur l'optique, les soins dentaires et l'accès aux audioprothèses. Agnès Buzyn qui a également salué la mobilisation de tous les services de l'État pour combattre le coronavirus. Mais ce qui restera de cette passation de pouvoir, c'est l'image d'une femme visiblement déchirée de quitter son ministère.
Alors désormais, Agnès Buzyn a donc un mois à peine pour mener cette improbable bataille des municipales. C'est dire, Pierre, si le pari annonce compliqué, d'autant qu'avant même l'éclatement de l'affaire Griveaux, eh bien le défi s'annonçait déjà difficile pour le parti au pouvoir.
Et certains diront que le choix d'Agnès Buzyn pour mener la campagne LREM à Paris est un choix par défaut, mais il fallait à la Macronie une figure plus rassembleuse et moins clivante que celle de Benjamin Griveaux pour affronter Anne Hidalgo à gauche et Rachida Dati à droite. Et à ceux qui doutaient de la fibre politique de son engagement, l'ancienne ministre de la Santé, qui n'a jusqu'à présent jamais sollicité les suffrages, a eu ce matin l'occasion de délivrer ce message de campagne.
Paris, les Parisiens, les Parisiennes ont besoin d'apaisement. Paris a besoin de bienveillance. Paris a besoin d'une ambition nouvelle. Nous avons besoin d'un récit collectif. Pourquoi cette exigence ? Parce que sans récit, nous nous condamnons à des analyses comptables. Les gens n'en ont pas besoin. Ils ont besoin d'envergure. Ils ont besoin d'idéal. Nous devons construire ensemble un horizon répondre aux espoirs et nourrir des espérances.
C'est donc un nouveau départ et même une prise de risque politique pour Agnès Buzyn qui va devoir en 4 semaines s'approprier un programme, redonner confiance à des troupes sonnées par l'affaire Griveaux. Ses adversaires dans cette campagne municipale ne manqueront pas de lui opposer son inexpérience parisienne et son bilan à la tête du ministère de la Santé et pourrait affirmer toute sa détermination. En quittant le ministère tout à l'heure, Agnès Buzyn a cité Churchill par ses mots: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte.
Voilà, et puis toujours s'agissant donc de cette démission, on l'a dit, c'est le député de La République En Marche, Olivier Véran, qui a pris la place d'Agnès Buzyn à 39 ans. Ce neurologue de profession, issu des rangs socialistes, espérait depuis longtemps entrer au gouvernement, y compris d'ailleurs sous le précédent quinquennat, et c'est donc lui qui va devoir gérer à présent les très nombreux dossiers sensibles du ministère, tâche qui s'annonce compliquée, Pierre, en particulier parce que c'est lui qui avait été à la manœuvre pour voter la loi de finances de la sécurité sociale que l'ensemble de l'hôpital rejette aujourd'hui.
Le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, rapporteur du projet de loi organique sur les retraites, Olivier Véran, médecin est d'abord et avant tout un homme politique. Il connaît tous les codes du ministère de la Santé comme ceux du Parlement. D'ailleurs, le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé sera dès cet après-midi dans l'arène pour défendre le projet de loi sur la réforme des retraites face aux 41 000 amendements de l'opposition. Et pour porter ce texte, il fallait un homme opérationnel immédiatement. Olivier Véran, c'est à quoi s'attendre.
Aux parlementaires des oppositions, je voudrais dire que je comprends et je respecte leur engagement au service d'une cause en laquelle ils croient. Je les sais sincères dans leur combat, même si parfois c'est rugueux, et même s'il m'est arrivé d'en regretter la forme. Le Parlement n'est pas le lieu où l'on couvre les voix, c'est celui où on donne de la voix.
Olivier Véran, qui peut se vanter de connaître le Parlement et ses rouages, reste maintenant pour lui à marcher pleinement dans les pas de la Macronie avec sa sensibilité de gauche. Mais nul doute qu'il continuera à défendre l'action du gouvernement, même si la réalité va très vite s'imposer à lui. La crise hospitalière, les restrictions de budget, sans oublier le projet de loi sur la dépendance qu'il devra défendre d'ici l'été.
Merci Pierre Neveu. Alors cette séquence municipale globalement compliquée intervient au moment même donc où le débat agité sur les retraites démarre, lui, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ou dit autrement, après une fin de semaine chaotique, mais plus encore après des semaines de contestation dans la rue et un appel à une nouvelle journée de mobilisation, aujourd'hui, la majorité s'apprête donc à défendre un projet que l'opposition continue de dénoncer comme injuste et qu'elle entend bien torpiller par une nuée d'amendements. Sans compter qu'à ces turbulences s'ajoutent encore les couacs et autres voix discordantes qui se sont élevées dans la majorité, au point que la semaine dernière, Emmanuel Macron lui-même avait dû appeler les députés à l'unité pour gagner la bataille des retraites. Quoi qu'il en soit, et pour l'heure, 15 jours de débat sont donc prévus, ce qui signifie que le gouvernement table toujours sur une adoption en première lecture avant les municipales et espère un feu vert définitif d'ici l'été. Un calendrier qui s'annonce toutefois compliqué. Ce matin, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a lui-même estimé que les partenaires sociaux avaient besoin de plus de temps pour négocier dans le cadre de la conférence de financement censée remettre d'ici à la fin avril ses propositions pour équilibrer financièrement le système des retraites à l'horizon 2027. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors sur le fond, le gouvernement et la majorité prévoient déjà d'amender ce texte, et notamment alors sur la question des droits familiaux.
Oui, l'objectif, c'est de mieux prendre en compte les préjudices de carrière des femmes, explique le rapporteur général du texte, alors que 38% des femmes touchent actuellement une pension inférieure à 1000 euros brut par mois. Dans le texte initial, il était prévu d'accorder une majoration de points de 5% dès le premier enfant, au choix, au père ou à la mère. Mais pour les détracteurs de la mesure, le risque était grand de voir les plus gros salaires en bénéficier, donc en général les hommes. Le texte sera donc amendé pour accorder d'office 2,5% aux femmes au titre de la maternité. Le reste sera partagé entre parents et à défaut attribué à la mère. Par ailleurs, pour les femmes ayant de faibles revenus, la majoration de 2,5% d'office ne pourra donner lieu à une somme inférieure à un certain montant qui sera fixé par décret. Et puis, autre nouveauté, des points supplémentaires seront accordés aux familles monoparentales.
Voilà, et puis, dernière nouveauté, Anne-Laure, s'agissant cette fois-ci de la pension de réversion.
Oui, ce qui était acté jusque-là, c'était de permettre aux conjoints survivants de conserver 70% des droits à la retraite dont bénéficiait le couple avant le décès. Mais rien n'était prévu en cas de divorce, ce qui avait suscité de nombreuses réactions, poussant le gouvernement à commander un rapport, puis à proposer des modifications. L'ancien conjoint pourra ainsi recevoir 55% de la pension du défunt au prorata des années de mariage. Mais attention, ce sera soumis à conditions de ressources, ces dernières étant définies par décret. Alors tous ces aménagements feront l'objet d'amendements portés par le gouvernement, mais le groupe En Marche en revendique la paternité, assurant avoir été à l'initiative sur ces questions. Il faut dire que ces points avaient aussi été soulevés par la CFDT, qui a l'oreille des parlementaires de la majorité.
Merci Anne-Laure Jumet. Et puis je précise que cette deuxième phase de discussion parlementaire sur le projet de réforme des retraites coïncide donc avec une nouvelle journée morte dans les transports à l'appel de l'UNSA, FO, Solidaire et Sud. La CGT appelle pour sa part à la grève jeudi prochain. Alors comment répondre à la colère qui continue de s'exprimer dans la rue? En commission, les députés ont d'ores et déjà envoyé quelques signaux à destination de certaines professions, c'est le cas en particulier pour les enseignants. Mais pas seulement, puisque pour répondre à la grogne des avocats, cette fois-ci, les députés ont notamment voté en faveur d'un abattement sur les cotisations des professions indépendantes. Alors sera-ce suffisant pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Christiane Ferrat-Lechul, avocate et présidente du Conseil national des barreaux. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Florence Durand. Bonjour.
Bonjour.
Florence. Cela fait plus de 6 semaines maintenant que vous avez entamé avec vos collègues un bras de fer avec le gouvernement, en particulier parce que ce projet de loi s'attaque à un système de retraite, donc le vôtre, qui était équilibré et qui ne coûtait rien à la collectivité, c'est bien cela?
C'est bien ça. Pas un euro au gouvernement, pas un euro aux citoyens, et qui pourtant était solidaire, puisque nous reversons en moyenne 100 millions d'euros par an, c'est-à-dire 1400 euros en moyenne par avocat, ce qui est très largement supérieur à ce qui se pratique salariés, fonctionnaires. Donc nous avons un système qui tient compte en plus d'un certain nombre de particularités. Vous avez évoqué plutôt l'égalité homme-femme. Nous, c'est intégré dans notre système. L'invalidité qui est également traitée. Rappelons que le libéral que nous sommes n'a pas de protection sociale et doit s'organiser. Ce régime crée de profondes inégalités, des inégalités qui avaient été corrigées par la voie de la solidarité interne et par la solidarité nationale. Donc nous avions ouvert la porte à des discussions paramétriques, des solutions qui auraient peut-être renforcé encore la solidarité, mais la solidarité, elle existe. Donc cette destruction de régime est extrêmement préjudiciable pour, et vous l'avez compris, en particulier tous ces professionnels qui gagnent entre 0 et 41 000 euros en moyenne.
Mais alors combien de temps, Christiane Ferrat-Lechul, va encore durer ce mouvement? Pas de compromis possible avec vous, avec le gouvernement, autre que le rejet pur et simple du projet? Il semble que vous ayez été entendu sur un certain nombre de points.
Alors, nous avons... D'abord, je rappelle qu'il y a le principe d'autonomie des barreaux. C'est-à-dire que le Conseil national des barreaux, qui représente les 70 000 avocats, n'intervient pas au niveau des barreaux, qui sont seuls décisionnaires.
Mais que la
Donc,
grève
il y a eu un appel
en
à mobilisation. Vous avez une unité exceptionnelle et retrouvée de cette profession. Et les barreaux ont individuellement voté la grève et reconduisent pour certains... J'ai eu les résultats ce matin, reconduisent pour la 7e semaine cette grève. Ensuite, vous dites, il y a eu des avancées. On tourne en rond sur les mêmes propositions depuis octobre dernier. La proposition, elle consiste en quoi? D'abord, il est acté partout que la loi nouvelle va avoir un effet d'augmentation sur cette tranche de 0 à 40 000 euros. On va passer de 14 à 28,2%, c'est la loi. Ensuite, il y a des correctifs parce que on a admis que 100% d'augmentation, et en fait c'est plus que 100% même, mais 100% d'augmentation, c'était indigeste, c'était impossible, c'était l'éradication. Donc il y a des propositions pour remédier à cet écart. Et ça repose sur 3 volets. Le premier consiste à dire abattement, donc de l'assiette de cotisation, donc 30% d'abattement, étant précisé que déjà un certain nombre d'avocats qui gagnent 70 000 euros de chiffre d'affaires bénéficient, eux, d'un abattement de 34%. Donc comment on va réconcilier tout ça? Donc on voit que c'est pas si simple. Ensuite, le deuxième consiste à dire, sur la phase de transition, eh bien, vous allez utiliser vos réserves, donc c'est de la solidarité interne. Et troisièmement, pour les avocats qui gagnent plus de 80 000 euros, on va créer une surcotisation qui viendra compenser. Donc la compensation, elle se fait par voie de solidarité interne. Les avancées, je veux bien qu'on appelle ça des avancées, on passe de 100% d'augmentation à 40% d'augmentation. C'est comme ça qu'on a réduit. Donc il reste une augmentation qui reste importante.
Alors grève pour les désignations des commissions d'office, l'urgence pénale, des audiences où la liberté est en jeu, au final des milliers de procès renvoyés, non seulement en correctionnel mais aussi en assises, que ce soit à Paris ou dans les barreaux de province, plusieurs parquets et présidents de tribunaux en plus de Nicole Belloubet en appellent à votre responsabilité en observant que le mouvement se fait au détriment des justiciables les plus pauvres.
Alors, on n'a pas attendu la grève des avocats pour constater les dysfonctionnements. Nous, les avocats, ça fait des années que nous dénonçons ces dysfonctionnements. Des renvois, des traitements expéditifs d'affaires, des situations qui sont extrêmement préjudiciables pour les justiciables. Ce que la grève révèle, c'est cette situation. Et aujourd'hui, ce sont les appels que je reçois de magistrats, de greffiers qui sont dans ces situations, qui sont pressurisés. On n'arrête pas de réformer. Donc on a eu la réforme de la justice, la dernière en date, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, avec des ordonnances qui se sont empilées les unes après les autres. La dernière est sortie courant décembre, 11 décembre, 22 décembre, pour une entrée en vigueur le 1er janvier, dans des conditions qui sont indigestes pour la profession. Et la grève permet simplement d'exacerber un terrain qui est miné. Les réformes successives n'arrivent pas à enrayer. On a l'impression de patchs qui sont installés ici et là. Mais la justice, nous avons une meilleure image de ce que doit être la justice et une image que nous partageons avec les magistrats et les greffiers.
Est-ce que vous la partagez avec vos autres confrères ? Les avocats pénalistes sont en première ligne, mais quid des avocats d'affaires, des avocats fiscalistes, des avocats en droit social ?
Vous savez, la grève, elle a mis en lumière un barreau dont on ne parle jamais. Ce sont tous ces milliers d'avocats qui, au quotidien, font du droit civil, du droit pénal aussi, vous avez raison, mais ce sont eux qui font l'aide juridictionnelle. C'est eux qui donnent vie à quelque chose de très important qui est l'accès à la justice pour chaque citoyen, quel que soit son niveau de revenu. Si vous faites disparaître cette catégorie-là qui est engagée, ce sont des avocats qui aiment ce qu'ils font, qui aiment la justice pour ce qu'elle est, qui sont aux côtés des justiciables, alors oui, vous aurez les beaux cabinets feutrés, les cabinets d'affaires. Je peux en parler, moi je suis typiquement une avocate d'affaires, comme on dit. J'ai été dans de grands cabinets, je sais ce que c'est. Ce sont des métiers qui coexistent, mais la justice, c'est tout ça. Il faut s'occuper des opérations de fusion-acquisition, mais de la même manière, il faut s'occuper du citoyen qui est victime d'un cambriolage. Il n'y a pas de petite et grande affaire. Chaque affaire est importante pour le citoyen, et le sentiment de justice est un élément clé dans l'équilibre de la société. Et la justice, ce n'est pas un service public comme les autres. C'est un service qui nécessite, sur ce terrain-là, des investissements. Et quand on arrêtera de penser la justice en termes d'économie, comment accélérer, comment abattre plus de dossiers, comment remplir des statistiques, mais véritablement qu'on arrivera à redonner de l'écoute et pas des palliatifs, alors la justice retrouvera son véritable rôle dans ce qu'elle doit être dans une société démocratique.
Et on terminera par ces mots. Merci Christiane Feralschul, avocate, je le rappelle, présidente du Conseil national des barreaux, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Florence Thur.
Merci.
Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est encore alourdi en Chine continentale. On parle désormais de 1770 morts et plus de 70 000 cas de contamination. Pour autant, le nombre de nouveaux cas quotidiens est lui en baisse pour la troisième journée consécutive. Une évolution du nouveau coronavirus plutôt encourageante, donc, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les autorités chinoises de multiplier et même de renforcer encore les initiatives destinées à limiter la propagation du virus. Une correspondance à Pékin signée Dominique André.
Pékin enregistre 381 cas contaminés et 4 décès officiellement. La capitale durcit ses mesures pour enrayer la propagation du coronavirus. Toute personne revenant à Pékin après un séjour dans les provinces du pays ou de l'étranger est désormais soumise à la quarantaine. Un contrôle des résidents est fait dans tous les immeubles et des cartes sont distribuées pour être autorisées à sortir et entrer. Dans Pékin et ses 16 districts, 38 zones d'observation médicale ont été ouvertes pour les familles qui ont été en contact avec des malades ou des cas suspects. Un peu plus de 1800 personnes y sont déjà conduites. Alors que tous les regroupements et les événements publics sont déjà interdits depuis au moins 2 semaines, c'est au tour du Parlement d'envisager un report de sa session qui devait se tenir début mars place Tiananmen à Pékin. Ce rendez-vous politique phare annuel regroupe 3000 délégués, dont un tiers qui vient des provinces. Ils sont actuellement sur le front de l'épidémie. La top priorité est donnée à la sécurité et à la santé du peuple, écrit l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Dans la province du Roubaix, berceau de l'épidémie, il est question que la France envoie un avion pour rapatrier ses derniers ressortissants qui souhaitent partir. Le départ serait prévu dans 3 jours.
Le drame s'est déroulé vendredi dernier, mais la nouvelle n'a été officialisée qu'hier. Selon un communiqué des Nations Unies, 22 civils, dont 14 enfants et des femmes, ont été tués au Cameroun, dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone dans le nord-ouest du pays. Un massacre qui intervient près d'une semaine après les élections législatives et municipales. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Cela fait près de 3 ans maintenant que l'ouest du pays est le théâtre d'un conflit silencieux, Claude, en l'occurrence de combats meurtriers entre les militaires d'un côté puis les séparatistes armés de l'autre.
Oui, on le voit, le bilan de cette nouvelle massacre, de ce nouveau massacre est absolument catastrophique. 22 morts, une femme enceinte, des bébés, des enfants en bas âge, des victimes brûlées vives. À Ntoubo, il faut dire que la population est entièrement sous le choc, elle est terrorisée parce que le message en fait est très clair. La violence bouillonnante dans ces régions du Cameroun anglophone vient de passer au stade supérieur. Alors, depuis 2017, tout l'ouest du Cameroun vit en effet une guerre, vous l'avez dit, presque silencieuse, qui a pourtant déjà fait plus de 3000 morts. Les séparatistes réclament l'indépendance de 2 régions anglophones pour créer un nouvel État, l'Amazonie. Ce conflit, il est hérité de l'époque coloniale. Il a été ravivé par la gestion brutale des revendications séparatistes par le régime de Paul Biya, qui est à la tête du Cameroun depuis 38 ans. Après une lourde répression en 2017, les groupes sont passés à la lutte armée et depuis, eh bien, les civils sont pris au piège des violences qui opposent les séparatistes à l'armée, des civils victimes surtout des exactions des deux camps qui, en les terrorisant, cherchent à les faire basculer de leur côté. L'opposition camerounaise a accusé l'armée d'être à l'origine de ce massacre à Ntoubo. Une armée dont 7 soldats sont d'ailleurs aujourd'hui jugés pour avoir froidement abattu 2 femmes et leurs enfants l'an dernier. Mais les séparatistes ne sont pas en reste. La semaine dernière, à l'approche des législatives, les groupes armés auraient enlevé plus de 100 personnes pour empêcher la population de participer au scrutin. Depuis le début du conflit, c'était il y a 3 ans, plus de 700 000 personnes ont déjà fui la zone.
Merci Claude Guibal. Au Burkina Faso, pays sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest, 5 soldats sont morts hier dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule. Par ailleurs, 24 personnes ont été tuées dans une attaque contre une église dans le nord du pays. Depuis la fin 2015, les attaques attribuées à des groupes djihadistes contre des chrétiens se sont multipliées malgré l'aide de militaires étrangers, en particulier de la force française Barkhane. L'opération avait été décidée en 2015 au plus fort de la crise des réfugiés, une opération navale baptisée Sophia destinée à contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Libye. Son mandat expirera à la fin du mois de mars, mais surtout elle n'est plus opérationnelle aujourd'hui depuis que les États membres ont retiré leurs navires en Méditerranée à cause du refus de l'Italie de laisser débarquer sur son territoire les migrants sauvés en mer. L'Union européenne doit se réunir aujourd'hui à Bruxelles pour décider justement de reprendre ou non cette opération. Problème, la décision ne peut se prendre qu'à l'unanimité. Or, l'Autriche, qui voit dans cette opération un billet d'entrée en Europe pour des milliers de migrants clandestins, refuse pour l'heure de donner son accord de retour des navires européens dans la zone. Au Royaume-Uni, le cofondateur du mouvement écologiste Extinction Rebellion est jugé à partir d'aujourd'hui. Roger Hallam est accusé d'avoir tenté de perturber le trafic aérien à l'aéroport d'Heathrow en utilisant un drone. C'était en septembre 2019. À l'époque, l'idée n'avait d'ailleurs pas fait l'unanimité chez les militants, mais surtout, ce n'est pas la première fois en réalité que l'ancien fermier bio, devenu spécialiste depuis de la désobéissance civile et adepte de la provocation, passe ainsi au tribunal. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
C'est en commençant une thèse à plus de 50 ans sur la désobéissance civile que Roger Hallam découvre en 2017 que le King's College de Londres investit 17 millions d'euros par an dans les énergies fossiles. avec une grève de la faim pendant 14 jours. Il oblige les responsables de l'établissement à changer leur circuit de financement. Il est ensuite arrêté pour avoir défilé sans autorisation contre la pollution à Londres. Il passe au tribunal pour des slogans écrits à la craie sur des murs et fonde en 2018 Extinction Rebellion avec d'autres activistes et un credo pour faire changer les choses, dit-il. Il suffit d'avoir le soutien de 3,5% de la population, à condition de mener des actions de masse et de jouer la carte de la provocation. L'an dernier, en visite en Allemagne, Roger Hallam lâche négligemment dans une interview que la Shoah n'est qu'une simple connerie de plus dans l'histoire humaine. Il se brouille avec une partie des militants, mais défraie la chronique pendant plusieurs semaines.
Au lendemain du passage de la tempête Dennis, certaines régions du Royaume-Uni sont toujours submergées ce matin par les inondations. Et puis en France, également touchée par cette tempête, environ 20 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin dans le nord-ouest du pays. On termine avec un mot de météo pour cet après-midi. Ciel couvert et pluvieux sur la majeure partie du pays. Seul le quart nord-ouest bénéficiera d'un temps généralement sec. Attention toutefois aux rafales de vent encore sensibles près de la Manche. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.